Revue de presse de l'April, semaine 48, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Bah, cette semaine, on n'est que tous les deux, donc on va faire efficace. Parlons du sommaire.
On va faire brut, 7 beaux articles. Un premier sur le journalisme, les Anonymous, la circulaire du préfet de l'Isère qui fait encore parler d'elle, la LPM, on va vous expliquer, l'État tunisien et Microsoft, le hacker du Parlement européen et pour finir, l'open data et ses licences.
Agoravox, du journalisme au journalisme open source, un article de Vincent Verschoor. Voilà, c'est un nom flamand, donc jamais facile à prononcer.
Et oui, de haut, c'est pas simple. Donc un article intéressant qui reparle d'une conférence qui avait été organisée au FOSA, Free Open Source Software for Academia. Et dans ces conférences, il y a eu des discussions qui avaient l'air d'être vraiment pertinentes par rapport à nos enjeux sur le journalisme. Et justement, il y avait des professionnels, des amateurs, on pourrait dire, et ils ont parlé, semblerait, de journalisme open source, libre, et des différentes caractéristiques qu'il pouvait avoir.
Open source en tout cas, c'est ce qu'il y a dans l'article. Il a même mis le logo de l'OSI, hein, du mouvement de l'open source initiative. Pas sûr qu'il y ait un grand lien avec le sujet, en tout cas que l'OSI soit impliqué là-dedans. Donc cette idée de faire du journalisme open source, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas des professionnels. Et il y a toute une série de critères qui ont été décrits pour ce truc-là.
Alors 8 critères, dont certains nous font terriblement plaisir, mais d'autres par contre sont peut-être un peu étranges et même qui on pourrait considérer qu'ils sortent un peu du cadre. Alors premier critère qui est vraiment intéressant, des sources d'informations vérifiables, oui c'est pas mal. Deuxième critère, action et participation, faut que les gens puissent travailler, faut qu'on leur donne des pistes d'action, oui. L'authenticité, oui certes. La prospective, oui il faut faire de la prospective dans les articles, là j'ai du mal.
Oui, c'est là où on commence à avoir un petit peu de mal. C'est l'idée selon laquelle la personne qui fait l'article doit avoir de l'analyse et dire « bon, bah voilà où on en est, et voilà où ça risque d'aller ». Sous-entendu, les journalistes professionnels ne font que donner des informations brutes sans aucun cadre et sans essayer de réfléchir derrière. C'est peut-être un peu caricatural.
Donc de la transparence éditoriale, contrôle de version, pourquoi pas effectivement, durabilité, il faut que ça tienne le choc dans le temps, et dernier article qui a peut-être fait tiquer les étudiants en journalisme qui étaient là, la gratuité. Et même nous, ça nous fait tiquer aussi parce que bah, dans le logiciel libre, la gratuité n'est pas un critère.
Et oui, libre n'est pas gratuit, c'est quelque chose qu'on dit très très souvent. On peut vendre du logiciel libre et bien souvent les gens qui en font bénévolement, ils ont une motivation personnelle de type apprendre une nouvelle techno ou s'amuser ou des choses comme ça. Donc c'est jamais totalement gratuit et c'est un petit peu illusoire de penser qu'on va faire les choses par vraiment totale gratuité. Donc bah, le truc qu'il y a derrière, c'est quand même assez éloigné finalement du libre à bien des égards. Sur ces critères, ils sont quand même assez larges, mais finalement, il n'y a pas d'objectif. Dans le logiciel libre, on n'avait qu'un objectif de liberté individuelle, de contrôle de son informatique et de partage du savoir.
Donc, là, on pourrait parler d'un objectif qui serait une déontologie du journalisme basée sur ses principes.
Ouais, alors il y a quand même pas mal de critères qui sont dans la déontologie normale qu'il devrait y avoir chez les journalistes. Alors, elle n'est pas toujours respectée, donc c'est évidemment louable de vouloir la remettre en place. Mais, enfin, moi, je suis pas totalement convaincu par l'article. Bon, après, c'est qu'un article. Et ça donne un peu l'impression d'avoir un peu une coquetterie et de finalement de voir le journalisme classique comme une espèce de gros monolithe très simple. Ça a l'air assez simplificateur à mon sens. Voilà, je suis pas tout à fait convaincu par ce truc-là. Cameron Voice réplique Anonymous prépare un système d'exploitation anti-NSA. Un article de la rédaction.
Donc, quelque chose qui est apparu sur plusieurs sites. Et là, qui apparaît sur un site en passant par une radio, la Voix de Russie. Et donc une déclaration, une annonce en quelque sorte, une prévision qui aboutirait au 5 novembre de l'année prochaine d'un système d'exploitation fait par la NSA.
Par
les Anonymous, pour contrer la NSA et pour permettre de l'anonymat sur Internet, de la sécurité, de la fiabilité.
Ah, donc ça c'est de l'info de journalistes bien sérieux, c'est-à-dire que c'est un truc passé par une radio russe, relayé par un site camerounais. D'une information de ce que pourraient faire à des gens totalement anonymes. Donc c'est hyper, hyper solide, quoi.
Exactement, c'est pour ça que c'est là, c'est important. Le nom de cette distribution, ce serait Blackout Linux. Je rappelle qu'Anonymous, bien, généralement, il n'y a pas de nom derrière. Donc celui qui a déclaré qu'il allait faire ça, allez savoir si ce sera suivi de fait, ça va être compliqué à vérifier. Mais c'est quand même amusant à voir venir.
Ça rappelle un article dont on a parlé il y a quelques semaines, avec quelqu'un qui disait que l'attaque de la NSA, en tout cas les révélations sur la NSA étaient vraiment inquiétantes, puisque les Anonymous n'avaient pas réagi, et que si c'était fait, enfin ils n'avaient pas réagi effectivement, c'est que le danger était vraiment réel, et qu'en gros, ben, ils balisaient. et c'était pour donner la mesure dans l'importance de la NSA. Donc je ne sais pas quel crédit on peut apporter à cet article-là. Moi, j'attends de voir.
Oui, n'est-ce pas ? On va attendre le 5 novembre de l'année prochaine.
Surtout qu'il ne dit pas que c'est la sortie de la distrib, hein. Il dit simplement qu'il va se passer des trucs. Donc ça peut être n'importe quoi.
En tout cas, basé sur du logiciel libre, Linux notamment, ce seraient des choses qui seraient forcément, bien sûr, simples à utiliser, distribuables sur clé USB, probablement qui intégreraient des outils comme Tor, hein, qui sont des outils intéressants. Et je vous encourage à aller les télécharger. Il y a des distributions de navigateurs simples à installer.
Alors, il y a un site qu'on peut mentionner, c'est pas dans l'article, mais bon, on fait une petite entorse à nos principes. C'est Prism Break. Donc évidemment, quand on le fait avec le super accent américain, parce que évidemment je suis bien dingue, ça sonne un peu comme Prison Break, comme on dit chez nous. Donc là, c'est Prism Break. Vous pouvez chercher ça dans votre moteur de recherche favori. Et il y a tout plein de conseils sur des navigateurs, sur des plugins à rajouter dans Firefox. Donc des trucs qui sont, dans certains cas, pas contraignants du tout, bien au contraire. Là, il y a un plugin que moi j'ai installé qui s'appelle Disconnect et qui va bloquer les trucs de stats. Bloquer également tous les petits bouts de code de type les j'aime de Facebook, les plus un de Google+, etc. Donc ces machins qui surveillent tout ce que vous faites et qui en plus de ça alourdissent la page. Donc en installant ce truc-là, vous évitez que toutes ces infos de vos navigations remontent vers ces gros opérateurs et en plus de ça, vos pages se chargent un peu plus vite. Donc vous avez tout gagné. Allez sur cette page, Prism Break, il y a plein de petits trucs de conseils, d'alternatives, c'est un truc à visiter. ZDNet, marché public et logiciel libre, une circulaire du préfet de l'Isère rappelle les règles, un article de Thierry Noisette. Ça fait au moins la troisième semaine qu'on parle de ce truc-là.
Non, t'abuses, c'est la deuxième semaine, mais c'est quand même intéressant. Et cet article va un peu plus dans le fond, dans les détails. Donc en gros, un marché public, ça doit être neutre. Un marché public ne doit pas faire référence à une technologie bien précise et une entreprise. Et bien là, il y a un retour
ça rentre vraiment dans le détail. Alors ça nous cite, ça fait plaisir. On a pris les cités dedans, il y en a d'autres également. On va pas en reparler encore parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière. Si vous voulez vraiment avoir du détail sur ce qui a été dit dans cette circulaire, quels sont les arguments, etc., allez lire cet article. Il est assez détaillé là-dessus, donc ça, c'est pas mal. ZDNet à nouveau, LPM, aux données personnelles, la patrie reconnaissante. Un article d'Antoine Duvauchel.
Donc la LPM, c'est la loi de programmation militaire, et ça passe en ce moment devant les députés.
Et quel rapport entre la loi de programmation militaire, parce que je crois que ça parle essentiellement de budget, et nos affaires ?
Eh bien, justement, un gros rapport, c'est le terrorisme, tu comprends, les pédonazis, tout ça. Il y a des gens qui sont très méchants sur Internet, et comme il faut les combattre, il faut se défendre, eh bien on va donner plus de droits aux autorités pour accéder aux données privées, aux données que les fournisseurs d'accès conservent. On va les obliger à conserver ces données encore plus longtemps et on va permettre des accès bien plus facilités que ce qu'il y a aujourd'hui.
Voilà, sans nécessairement passer par un juge, des trucs en temps réel, des trucs sur simple requête administrative. Donc ben, on voit le principe qui fait toujours peur, hein, sur ces histoires de données personnelles, c'est qu'on ouvre une brèche avec un prétexte ou éventuellement même une vraie cause, bon, même si sur celle du terrorisme je suis pas totalement convaincu personnellement.
Mais il y en a d'autres, hein. C'est aussi, ouais, pour répondre à des attaques informatiques, c'est pour faire attention aux choses, ouais, qui portent atteinte au,
voilà,
potentiel de guerre.
C'est le cadre dans lequel on pourra utiliser ses pouvoirs spéciaux.
Voilà,
ça
le potentiel
très, très
économique,
voilà,
la capacité de survie de la nation, des trucs de folie, mais on peut appliquer ça à tellement de choses.
Et oui, et donc c'est un peu ce principe, on enfonce le coin et après ça on élargit et on se retrouve avec un système de surveillance, hein. On a toujours le plan Vigipirate en place depuis 15 ans. Et nous, à Paris, on voit régulièrement des militaires avec des fusils d'assaut chargés qui circulent dans les gares. Et voilà, ça fait 15 ou 20 ans que ça dure. Initialement, ça devait pas durer. Et l'article constate également que la CNIL, là-dessus, ne dit rien.
Et oui, parce qu'a priori, toutes ces données, les problèmes de vie privée, des accès automatiques à des données vraiment au cœur du réseau, eh bien la CNIL aurait son mot à dire là-dessus. Pour l'instant, c'est la grande muette, ce qui est amusant par rapport à l'armée.
Hein. Oui, normalement, c'est elle qui se tait. Mag 14, à quoi joue l'État tunisien avec Microsoft ? Un article de Moïse EK, donc un pseudo. Ben ça, c'est la contrepartie de ce qu'on avait cité la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus.
Et qui était à l'ordre du jour dans de nombreuses revues de presse, parce que la Tunisie, il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé.
Et donc le gouvernement avait annoncé un super plan pour faire du logiciel libre au niveau de l'État et tout, c'était super. On avait quand même rappelé qu'il y avait un certain passif entre Microsoft et le gouvernement tunisien. Qui...
L'article en reparle, ouais, hein, c'est toujours amusant d'ailleurs, ouais, on peut peut-être citer...
Oui, alors oui, effectivement, on avait cité le fait qu'il y avait des liens entre Microsoft et une chaîne de télévision, enfin en tout cas que Il y avait un couple avec l'un qui dirigeait Microsoft Tunisie et l'autre qui dirigeait la chaîne de télé. On savait également que Microsoft avait fourni des solutions de surveillance de la population.
Oui, grâce à son navigateur et à des problématiques de certificats où ils avaient autorisé à faire des écoutes.
Voilà. C'est juste que des boîtes françaises font très bien aussi.
Ah, on est très très bon pour ça. On avait travaillé avec la Libye notamment.
Tout à fait. Et on apprend dans l'article un truc assez rigolo, c'est qu'en octobre 2007, le trophée Microsoft pour le leadership mondial en technologie de l'information a été décerné à Ben Ali.
Ça fait plaisir. Et effectivement,
il devait être content.
Voilà. Est-ce que aujourd'hui, ce même genre de trophée serait décerné au gouvernement actuel de la Tunisie? C'est ce que justement se pose comme question l'auteur. Et puis, bah, il parle de la relation entre Microsoft et Amar 404, qui est le surnom des
bah,
gens qui bloquaient un peu, voilà, bah, qui bloquaient Internet.
404, c'est le terme que les internautes tunisiens ont trouvé pour parler de la surveillance, de la censure, etc. Donc c'est le Big Brother tunisien.
Donc ça fait mal au cœur parce qu'il y avait eu beaucoup d'efforts, des gens qui parlaient de logiciels libres, de liberté, d'ouvrir l'État à d'autres façons de travailler, les administrations à utiliser des logiciels qui pouvaient s'accaparer réellement. Et là, ce serait une mainmise de Microsoft sur
un
État.
C'est un petit peu comme chez nous, hein, je veux dire, il y a une circulaire héros et derrière, il y a l'accord Open Bar Microsoft avec le ministère de la Défense.
Il y a un peu de ça, donc c'est rageant, effectivement. On verra s'il y a d'autres conséquences dans les médias notamment. En tout cas, voilà. C'est ce qui arrive en ce moment en Afrique du Nord.
Mediapart, cher monsieur le hacker, on voudrait quand même un peu te remercier. Un article de Mélanie Vogel et Sonia Rouhabi.
Donc, c'est deux assistantes parlementaires du Parlement européen. Et le hacker, on ne connaît pas son nom, il me semble, mais c'est quelqu'un qui a fait, qui a montré qu'on pouvait assez facilement accéder aux mails c'est du Parlement européen.
Voilà. C'est une affaire qu'on avait évoquée la semaine dernière.
Exactement.
Qui a fait un petit peu de bruit, donc avec des moyens très simples, hein, du Wi-Fi, des trucs vraiment pas compliqués. Il a réussi à choper les mails de plusieurs personnes, dont ses assistantes parlementaires. Et c'est une sorte de lettre ouverte qu'elles lui écrivent. Alors, c'est assez humoristique, elles le tutoient. Elles disent qu'effectivement, c'est quand même un petit peu embêtant de se faire pirater, mais qu'elles n'ont pas grand-chose à cacher.
Oui, qu'au moins, il est au courant de quel genre de café elles prennent, voilà. Quand, avec qui elles ont discuté.
Alors, elles font un petit peu la pub de leur camp, hein. C'est les écolos en disant qu'ils ont toujours été actifs là-dessus, etc.
Et qu'ils sont très, très transparents, et qu'au contraire, ils veulent partager les données, qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue-là.
C'est comme un gros côté d'autopromo, il y a au moins 2-3 paragraphes là-dessus. Et après ça, elle dénonce le véritable scandale qui, pour elle, est le fait que le Parlement achète du Microsoft à tour de bras depuis des années, que les lobbies rentrent un peu comme ils veulent et ce genre de choses. Et que là, pour le coup, c'est le vrai scandale pour elle, plus que le fait que le mail soit pas bien verrouillé.
Donc, petit article sympathique. Elle évoque aussi les accords et les négociations avec les États-Unis, le TTIP, dont on parlera sûrement dans le futur, les révélations d'Edward Snowden, où les Verts, justement, et t'as raison, hein, elles se font mousser, les Verts avaient proposé de lui fournir un prix Nobel, hein, le prix Nobel de la paix, il me semble.
Non, c'est pas celui-là.
Non, le prix Sakharov, tu as raison. Et donc, c'est vrai que c'était quand même assez important. Mais bon, allez voir l'article, il est rigolo. Et puis ce sujet-là, il est vraiment intéressant parce que ça parle de nos autorités et des logiciels propriétaires qu'on paye.
Lagazette.fr, le fouillis des licences Open Data s'éclaircit à un article de Sabine Blanc, je pense.
Donc c'est un article pratique, c'est une fiche pratique qui reparle des quatre libertés, mais...
Alors, c'est la Gazette des communes, hein, donc c'est un truc qui s'adresse aux collectivités territoriales et qui fait un gros bilan sur l'Open Data et sur les licences qui existent. Donc là encore, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez vraiment du détail sur les licences et comprendre un peu ce qui se passe, l'article va les citer une par une et donner des éléments dessus, donc c'est un bon défrichage pour... voir un peu quel est le terrain.
Petite chose intéressante que je remontrais bien de l'article, c'est qu'effectivement, il précise que les licences actuellement ne sont pas bien utilisées. Il y a beaucoup d'infractions, mais c'est pas grave. Ces infractions sont tout à fait tolérées, mais ça leur permettrait peut-être plus tard d'avoir un usage, d'être utile, de pouvoir retomber, je ne sais pas, sur les contrevenants aux licences.
Tant qu'il n'y a pas d'abus, on va laisser courir. Moi, je l'ai compris. Alors, c'est un petit peu ambigu dans l'article. La façon dont je l'ai compris, c'est que en gros, ils ont un peu de mal à ce que ça décolle et s'ils veulent que des gens s'en occupent, enfin, en tout cas, utilisent les données de l'open data, enfin, pas trop les embêter, et que si on commençait à faire respecter les licences et à casser les pieds à tout le monde, on allait faire fuir tout le monde et la dynamique allait se casser. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le truc, ça serait intéressant de fouiller. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que, voilà, il y a un peu ce côté qui, juste de façon opportuniste, vont profiter sans renverser et sans se dire qu'ils sont dans un mouvement général. Donc, faut voir ce que ça donne, un truc à surveiller.
Bon, en tout cas, si vous êtes dans l'administration, par exemple, allez jeter un œil sur ce genre d'article. C'est informatif, on voit les licences. Il y en a quatre qui sont à peu près regardé.
Voilà. Donc, l'idée étant que ça se concentre et que tout le monde utilise les mêmes, et manifestement, ils vont dans l'idée de ne pas avoir 36 000 licences, ce qui évidemment est très intéressant quand on veut utiliser des données de sources différentes.
Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Manu. Merci à toi et bonne semaine à tout le monde.